Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Hubert Guillot, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Coincé dans le Zoom, avec un sous-titre.
Et qui profite au travail.
Qui donne le travail, qui donne mieux l'idée de à quoi le Zoom fait référence. Moi, par exemple, étant universitaire, je fais partie des gens qui ont été coincés dans le Zoom et qui le sont finalement. Enfin, je pense que tu vas l'expliquer de manière très claire. Qui a été. Peut-être que tu vas nous donner justement les solutions pour revenir en arrière. En tout cas, clairement, typiquement, la grève de la semaine dernière dans nos organisations, ça fait zéro effet. Les gens, il n'y a plus de transport, tout le monde s'en fout. Et parce que les gens télétravaillent, évidemment, ça correspond à certains types de boulot. Et c'est, je crois que c'est un point très important de ton travail, de montrer qu'il y a des gens qui peuvent s'en sortir comme moi. Et puis il y en a d'autres, malheureusement, ça se décline en plusieurs saveurs. Il y a ceux qui sont obligés de continuer à travailler dans le froid et sous la pluie, avec leur vélo, en livrant des trucs. Et puis il y a ceux aussi qui sont dans d'autres formes de travail à distance. Voilà, donc je pense qu'on était nombreux à ressentir un truc comme ça. Et donc. J'imagine que dans ce livre, tu as donc compilé et développé cette espèce de sentiment général qui nous devine dans les artistes qui sont là, peut-être, je ne sais pas si vous télétravaillez en tant qu'artiste.
Servir des nerfs en télétravail.
Voilà.
Mais il y a une expression, je ne sais pas, peut-être tu sais, moi j'avais trippé l'expression, ils ont c'est du yiddish déformé, c'est oikezout. Qui est apparu pendant le Covid et quand tout le monde était à fond sur Zoom, et c'était vraiment pour dire tout me saoule, quoi, j'explose, machin. Mais c'était vraiment lié à Zoom, genre, non, là c'est bon, j'en peux plus, quoi. Et ça m'a fait triper de voir apparaître ce. Bon, c'est le Ricain, je pense qu'on fait ça, et en mélangeant Yiddish un truc comme ça pour faire un nouveau mot, pour dire, vas-y, ça me saoule, quoi.
Bien,
Oui, mais je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont vécu en fait pendant et un peu brutalement. Je vais essayer. Moi, ce qui m'a intéressé en fait, c'est qu'il s'est passé quelque chose en fait. En mars, il y a non seulement eu la pandémie, effectivement, avec ses annonces en mars 2020 en disant. Attention, on ferme les commerces, on ferme les écoles, et il va falloir faire autrement. Et ce faire autrement, la plupart des gens ont été un peu paniqués, en fait, par ce qui allait se passer. On ne comprenait pas bien ce qui se passait. On avait d'un coup une injonction. Le dimanche, on allait voter. Il faisait un beau soleil de mars. Et. Deux jours après, le 17 mars à midi, tout s'est mis à s'arrêter, en fait. Les gens ont fui, il y a plein de Parisiens sont partis, ils ont pris le train pour s'en aller le plus loin possible, et le reste s'est figé. Et d'un coup, tout le monde a été sommé à quelque chose qu'on connaissait un petit peu, mais très mal, c'est le télétravail. On ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire, on ne savait pas, dans beaucoup d'entreprises, on ne savait pas du tout ni comment faire, ni comment s'y prendre. Et donc il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, et une accélération profonde autour de ces outils, notamment. Alors ce n'ont pas été les seuls qu'on a vus pendant le confinement, il y en a eu plein d'autres. Moi, je me suis plutôt intéressé aux outils de visioconférence, parce qu'en fait, la visioconférence, ça existe depuis assez longtemps, mais là, il y a eu un phénomène nouveau, en fait. Et c'est ça que j'ai essayé de regarder dans ce livre. Alors, je ne sais pas dans quel sens le prendre. Peut-être qu'on peut commencer par un bout d'histoire sur la visio. Ça remonte à assez longtemps, en fait. Vous avez même des références à la visio dans Métropolis de Frisland. Donc, on a des gens qui se téléphonent avec des écrans. Vous avez la même chose dans le film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a cet imaginaire-là qui est présent depuis assez longtemps. Comment ? J'ai pas vu le 2. Je me suis arrêté au 1, hein, c'est pour ça. Mais il y a un bout d'imaginaire autour de ça. ce qu'on voyait plutôt depuis que le numérique s'est développé, c'est qu'il y a toujours eu des tentatives autour de la visioconférence, en fait. Il y a eu des tas de petits logiciels. L'un des plus connus, au tournant des années 2003-2007 à peu près, c'était Skype. Donc c'était un petit logiciel qui s'installait sur son ordinateur qui permettait justement de faire une visioconférence à plusieurs. On a dû tous essayer plus ou moins ce type de logiciel. Il y en a eu bien d'autres. Un des plus connus, parce qu'il permettait justement de faire des conférences à beaucoup de participants. On pouvait monter jusqu'à une vingtaine, cinquantaine. C'est Flash Meeting, qui sont vraiment sur le même principe que Zoom. Hein. Il n'y a pas eu de changement majeur dans ces outils, en fait. Mais comme le télétravail, en fait, ces outils sont restés un peu, peu utilisés par les gens, ou seulement dans certains types d'organisations où on pratiquait beaucoup, où on s'est mis à pratiquer tôt le travail à distance. Malgré tout, le numérique a continué à évoluer. Et l'une des grandes transformations de ces dernières années, c'est également le smartphone. 2007, 2009, avec l'apparition de ces outils, c'est le téléphone d'abord, et très vite arrivent des outils de messagerie instantanée. Là, vous les connaissez, c'est les Facebook Messenger et autres, qui permettent justement non seulement de se téléphoner avec la voix, mais également d'introduire en fait l'image d'une manière directe et coordonnée. Alors le problème, c'est qu'on peut difficilement le faire à plusieurs. On le fait à deux, difficilement à trois ou quatre. Enfin, les fonctions, il y a des fonctions qui sont venues petit à petit, mais elles sont assez rares et peu utilisées. Et donc, en fait, on a eu une forme d'habitude un petit peu de ces visios, mais deux à deux, en fait, un petit peu comme ça. Et puis le confinement arrive et d'un coup, en fait, quelque chose bruisse sur les réseaux, c'est ces outils de visioconférence. Les outils de visioconférence comme Zoom, en fait, Zoom existe depuis 2010 à peu près. Le temps que ça s'installe un petit peu, et en fait, ils reprennent grosso modo le fonctionnement d'outils comme Flash Meeting. Ils en font une interface un peu plus fonctionnelle. Mais grosso modo, ce sont des outils qui sont très peu utilisés. Ils sont utilisés principalement par un type de catégorie de professionnels, ceux qu'on appelle les digital nomades. Alors, les digital nomades, c'est une expression pour qualifier ceux qui ont réussi dans le monde du numérique, vraiment. Grosso modo, ce sont des super profils complètement numérisés et numériques, en fait, qui se baladent autour du monde, qui vont faire trois semaines à Bali et après quatre semaines au Mexique, et qui gèrent à distance en fait des équipes à l'autre bout du monde. Ça se développe en fait beaucoup auprès de ce public-là et auprès d'un public en fait de consultants internationaux ou dans des grands groupes pour pouvoir gérer à distance des équipes externalisées, qu'elles soient en Roumanie, en Afrique ou à l'autre bout des États-Unis. Et donc, c'est auprès de ce public que ça se développe. Donc, ça reste assez limité par rapport au reste, ce qu'on a ou ce qu'on connaît ailleurs, c'est que le télétravail, en fait, ça reste une activité qui n'est pas très valorisée par les entreprises, qui existe. Hein, grosso modo, si les derniers chiffres avant le confinement, on évaluait en France qu'il y avait à peu près 1,6 million de télétravailleurs. Mais par télétravailleur, on entendait autant des gens qui télétravaillent très ponctuellement, c'est-à-dire une fois dans le mois. Un jour typique, c'est le cadre qui part en week-end et qui prolonge son week-end ou le devance en se mettant en télétravail. Et il y avait aussi quelques profils de gens qui télétravaillaient plus activement, mais grosso modo, c'était assez rare. Et ça restait encore une fonctionnalité ou un type de travail qui n'était réservé qu'au cadre, qu'aux professions supérieures. Grosso modo, on touche assez peu les autres professions. Et avec le confinement, ce qui change, c'est un petit peu tout ça. D'un coup, on se dit quel outil utiliser, et c'est un peu la panique dans la plupart des boîtes. On va chercher les ordinateurs qu'on ramène auprès de salariés qui sont coincés chez eux dans une forme de précipitation dont on ne sait pas exactement quoi faire ni comment. et on se dit quel outil de coordination on utilise, alors que la plupart des entreprises ne sont pas forcément très numériques, n'ont pas ce type d'outil de pratique de coordination distante. La seule chose qu'elles ont assez souvent, c'est des plateformes métiers que les gens utilisent depuis leur poste de travail. Est-ce qu'elles vont pouvoir marcher à distance ou quoi que ce soit ? Enfin, il y a toute une complexité qui se met en place. Mais il manque le besoin de coordination. Et très vite, ces outils vont s'imposer, en fait. Moi, quand j'ai fait mon livre, j'ai enquêté un petit peu. En fait, on commençait, il y a eu quelques papiers dans la presse française ou internationale sur ces solutions de télétravail, mais très rares, très distantes. Et d'un coup, dès que le confinement est décrété, on va voir surgir en fait des papiers sur comment faire pour se mettre au télétravail, quel type de solutions vont utiliser. Et très vite, Zoom apparaît en tête des suggestions en fait. Le bouche à oreille se fait très vite en fait autour du logiciel, et il va être très 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 rapidement approprié dans des tas d'organisations. Alors on peut se demander un petit peu pourquoi ou comment en fait. Qu'est-ce qui se passe autour de ce logiciel ? Pourquoi lui a pris le pas sur d'autres modes qui existaient et qui étaient peut-être certainement plus utilisés encore auparavant par les entreprises ? Typiquement la téléconférence, donc sans la visio, c'est-à-dire le fait d'avoir un téléphone relié qui permette justement de faire des téléconférences, donc d'avoir des acteurs qui viennent un peu n'importe où, mais sans l'image, en fait. Ça, c'était un mode de fonctionnement qui existait, en tout cas, en toile de fond. Mais d'un coup, il y a eu besoin d'image, en fait. Ce besoin d'image, il s'explique certainement par des tas de phénomènes, en fait. D'un coup, on était tous calfeutrés chez nous. Ce qui nous a manqué, c'est justement de pouvoir voir les gens et de pouvoir les rencontrer. Donc, en fait, le logiciel a fourni, par cette fonctionnalité même, une possibilité, en fait, une façon de se rassurer ou de se réassurer, de pouvoir voir les gens et pas seulement les entendre, en fait, alors que c'était impossible, justement, de les voir. Et en fait, il y a un côté très émotionnel derrière ça, qui a vraiment... permis l'essor de ce type de solution. D'un coup, c'était un moyen en fait de recréer du lien, de la vision et de pouvoir voir les gens en fait. Il y a un rapport très très émotionnel qui s'est vraiment déclenché. Et je pense que c'est le moteur en fait de la réponse. D'un coup, on était un petit peu coupé des autres et la bonne réponse était de pouvoir voir les gens, etc. Ça a déclenché quand même quelques difficultés notables. L'une des difficultés, c'était de se dire, mais d'un coup, on voit l'intérieur de chez les gens. Dans les entreprises, personne n'a vu ça comme un problème. Là où ça s'est développé comme un problème, c'était plutôt de côté école, enseignement supérieur, où d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y a des élèves qui ne voulaient pas mettre la caméra, qui ne pouvaient pas brancher leur caméra, en fait, parce qu'ils vivaient dans des conditions difficiles, dans des petites chambres partagées avec d'autres membres de leur famille ou des choses comme ça. Enfin, d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une intrusion, en fait, que la caméra portait avec elle, en fait, une intrusion dans l'intimité des gens qui était vraiment difficile. On l'a très mal compris durant tout le premier confinement. Si vous vous souvenez un petit peu, les profs se sont rapidement plaints justement du fait que les élèves ne branchaient pas leur caméra en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne branchaient pas ? C'est pas sympa, on ne peut pas vous voir, etc. On a envie de savoir si vous allez bien et vous ne nous permettez pas de le constater de visu. Sans voir, ces refus ont été souvent pris comme des modes de « oui, bon, ils s'en foutent, ils ne veulent pas s'impliquer, etc. » Alors qu'en fait, ce n'était pas un refus individuel ou personnel. Derrière, il y avait une motivation qui les dépassait, en fait. Des conditions qu'on n'a pas envie de montrer, non pas tant aux profs qu'aux autres élèves, des conditions d'existence et des choses qui relèvent en fait, vraiment de l'intime. D'un coup, avec Zoom, en fait, c'est l'intimité. Une forme d'intimité pouvait être dévoilée. Donc il y a cette tension-là. L'autre tension, c'est celle dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment ce côté. Grosso modo, le 17 mars, on a ce déploiement, ce confinement avec ces outils qui vont commencer à se répandre. Le 20 mars, il y a un premier article de la BBC qui parle de la Zoom fatigue. Et la Zoom fatigue, c'est tout à fait ce que tu évoquais. C'est ce sentiment d'épuisement ou de ras-le-bol qu'ont eu très très rapidement les gens avec ces outils, en fait. Alors là aussi, il y a des tonnes de spécialistes qui se sont penchés sur le sujet. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a cette réaction, en fait, épidermique, allergique à ce phénomène? Alors il y a des tas d'explications. Je les développe toutes dans le bouquin. Bon, la première explication qui vient, c'est justement en fait le surcroît des réunions qui a pu être déclenché en fait via ces outils. Il y a des gens qui rentraient en réunion à 8 heures du matin et qui finissaient à 19 heures le soir. Et c'était en continu, ils étaient sur Zoom en continu. Forcément, en fait, c'est pas le logiciel en lui-même qui était fautif, mais là, c'est bien souvent le surtravail ou la surcompensation que beaucoup ont fait pour pouvoir justement essayer de contrebalancer les angoisses qu'on pouvait avoir avec le confinement. L'apéro Zoom.
Ouais, ouais. C'est ça. Ça n'en finit pas.
Oui, ça n'en finissait pas. Et effectivement, enfin, c'était une continuité en fait. Notre seul contact avec l'extérieur, c'était en fait avec la visio. Et pour certains, c'était du début à la fin, sans avoir nécessairement de moment pour se poser, etc. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais pour beaucoup, c'était ce tunnel en fait continuel où je suis devant un écran du matin jusqu'au soir pour discuter avec ma famille, mes amis et mon job. Après, il y a eu plein d'autres explications qui sont venues aussi essayer de nous montrer en fait les difficultés de l'outil lui-même et de ses applications psychocognitives, on pourrait dire. L'une des grandes explications qu'il y a, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être en face à face, mais on n'est pas en face à face. Et donc, il y a des tas de choses qui passent très très mal en fait dans ces outils-là, et qui nous demandent des efforts cognitifs et psychologiques supplémentaires, comme d'essayer de comprendre ce que veulent vraiment dire les gens, ce que signifie leur regard sombre, qu'on n'arrive pas à décoder parce qu'en fait, on n'est plus au même endroit. Et si je fais cette remarque, là, ça le fait rire, mais dans Zoom, ça ne l'aurait peut-être pas fait rire, en fait, parce qu'il n'aurait pas compris que c'était nécessairement à lui que ça s'adressait. Et donc, il y a tout ce décalage, ces formes de latence, en fait, qui ont été générées par le système.
J'ai une question à ce sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui envisagent le fait qu'on s'habitue et qu'on s'adapte, quand même qu'on évolue, que nos codes sociaux évoluent? Je pense en particulier à mes étudiants, là, qui, moi j'ai un cours le samedi matin, il y avait un jour férié vendredi, c'est eux qui ont demandé un cours en visio. En fait. Est-ce qu'on peut imaginer que la manière dont les cerveaux se synchronisent,
Je ne sais pas si c'est la manière dont les cerveaux se synchronisent ou la facilité en fait qu'a introduit l'outil. Pour moi, c'est le point important que je développe un peu dans le livre. C'est qu'en fait, si Zoom est resté après cette première période de confinement, alors c'était compliqué parce qu'il y avait des règles qui ont continué à survenir, il y a eu d'autres périodes de confinement, etc. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'à la levée du confinement, on doit être en fin avril, si je ne me trompe pas, début juin, ça a duré 2 mois, c'est mars, avril, ouais, ça doit être à peu près ça. Quoi ?
3 mois.
Ouais. D'un coup, ce n'était pas aussi libre qu'avant, malgré tout. Il y avait encore des précautions à prendre, etc. Et les choses ne sont pas revenues à la normale, en fait. Hein. On n'est pas revenu au monde d'avant, on est resté dans le monde d'après. Et en fait, c'est ça aussi que j'ai essayé de comprendre. Pourquoi est-ce qu'en fait, on a continué à utiliser Zoom en dehors en fait, des prescriptions sanitaires qu'on pouvait comprendre? Et en fait, l'un de mes points, c'est que Zoom permet vraiment quelque chose Et il a vraiment permis une libération de certaines personnes plus que d'autres. Ce sont surtout des cadres et des professions supérieures, mais ça aussi des professions intellectuelles ou quoi que ce soit, parce que ce sont eux qui majoritairement l'ont utilisé et continuent de l'utiliser. En fait, c'est une chose très importante, c'est qu'il leur permet de maîtriser leur agenda, de maîtriser leur disponibilité. Aujourd'hui, quand la première fois qu'on m'a dit qu'on allait faire quelque chose, je me suis dit, on va le faire dans Zoom ou on va le faire en réel? Et en fait, on l'a fait en réel, en fait. Mais dans la plupart des organisations, la tendance actuelle, c'est de dire, c'est quand c'est réel qu'on précise, et c'est Zoom le défaut, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le logiciel est très facile d'utilisation. Tout le monde a pris l'habitude de l'utiliser. Et aujourd'hui, il y a plein de réunions à distance dont on va faire l'économie du temps de déplacement, du temps de trajet, du temps de coordination, etc., en plaquant dessus directement une réunion distante où on va pouvoir se voir, où on a pris l'habitude. Donc ça passe mieux, donc on sait faire, donc on branche sa caméra plus facilement, etc. Ça, c'est pour répondre à ta question, en fait. Vraiment, il y a une habitude qui s'est créée et une facilité d'utilisation généralisée, en fait. Aujourd'hui, enfin, dans des tas d'endroits, dans des tas de boîtes, avant, les gens, vous aviez un rendez-vous au ministère à Bercy. Fallait y aller. Désormais, non. La plupart des rendez-vous au ministère à Bercy, c'est dans Zoom. En une heure et demie, c'est plié. Je n'ai pas mon déplacement de l'Essonne jusqu'à Bercy. Je n'ai pas mon trajet de retour. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait? C'est là le vrai effet Zoom. Ça a démultiplié la productivité des cadres. Quand on parle que le numérique et que le télétravail ont permis de libérer la productivité des cadres, ce n'est pas que Zoom permet de faire de meilleures réunions que dans le réel. Ce n'est absolument pas le cas pour tous ceux qui ont pu en faire. C'est juste parce que vous allez pouvoir gagner du temps et ce temps-là, vous allez pouvoir le réutiliser à faire autre chose. Et ça, ça a été énorme. Pour moi, c'est le grand bouleversement qu'introduit Zoom en fait aujourd'hui dans nos pratiques. C'est cette libération en fait vraiment du temps de travail des cadres et des professions supérieures.
Mais ça induit pas, enfin moi j'ai l'impression que ça induit aussi une mécompréhension sur pas mal d'éléments. Donc je me dis qu'il y a certainement des champs professionnels dans lesquels l'information arrive à passer, puis d'autres où ça crée des mécompréhensions qui, par effet boule de neige, doivent devenir.
Oui,
en vrai. Donc bien sûr. Productivité qui est éventuellement.
Entièrement d'accord, mais il faut la relier à la productivité du monde du travail. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous dit les réunions, j'en peux plus. Les réunions physiques, qu'elles sont souvent inutiles, dispendieuses, trop fréquentes, etc. Zoom, finalement, ça fait la même chose. Et je gagne personnellement du temps, de la coordination, etc. Et ça ne fonctionne pas très bien, OK, mais ça ne fonctionnait pas plus en réel, ça ne fonctionne pas plus en distanciel. Tout à fait. Et là, il faut regarder ce qu'est le télétravail. Le télétravail, depuis le début, en fait, c'est un truc de cadre. Tout à l'heure, je vous ai dit, en 2019, avant la pandémie, 1,6 million de personnes disent télétravailler, soit un jour, plusieurs jours par semaine, etc. Grosso modo, en France, c'est ça. Or, si on regarde très concrètement, ces personnes, ce sont uniquement à 70-80% des cadres des professions supérieures, etc. Et ça, ça n'a pas changé, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le confinement, d'un coup, il y a eu plein de gens qui se sont mis à devoir télétravailler. On est passé de 1,6 million à plus de 10 millions de télétravailleurs, de gens qui ont dû télétravailler. Donc, parmi ces gens-là, il n'y a pas eu que des cadres. Il y a eu d'autres professions. Mais si on regarde très précisément, en fait, le nombre d'ouvriers qui ont télétravaillé, c'est resté un pouillème. On est à moins de 1% d'ouvriers qui ont télétravaillé. Donc, bien évidemment, le télétravail dépend des activités que vous faites et également de votre niveau social, en fait. Et en fait, depuis le reflux du premier confinement, ce nombre de 10 millions de télétravailleurs est redescendu. Grosso modo, on va aujourd'hui s'arrêter à... j'estime en tout cas, d'après différents chiffres, que le télétravail, il a doublé. On est passé à 3,2 millions de télétravailleurs. Mais dans ces 3,2 millions de télétravailleurs, qu'est-ce qui reste? Il reste encore que des cadres. Grosso modo, ça n'a joué que sur les cadres. Au moment du pic du télétravail, ça a pu concerner d'autres types d'employés, notamment des gens du management intermédiaire, voire des secrétaires ou même des professeurs, etc., mais assez peu. Et grosso modo, en fait, on est resté vraiment sur le télétravail était destiné au cadre, et en fait, il l'est resté. Contrairement à ce qu'on nous raconte assez souvent, en fait, en nous disant « oui, mais le télétravail, il va pouvoir s'élargir, etc. », en fait, cette contraction ou cet élargissement n'a été que passager.
Et tu rends où le côté turc mécanique, en fait? Parce qu'il y a plein, quand tu parles des cadres, il y a quand même une chier de gens qui bossent maintenant à distance et qui font des trucs d'ouvriers, mais des ouvriers numériques, quoi. Et il y en a un paquet, et je pense que ça va augmenter de plus en plus, ne serait-ce que les vérificateurs d'images de Facebook ou tous ces trucs-là, ça a aussi amené tout ce machin-là.
Oui, mais alors, est-ce qu'on les qualifie comme télétravailleurs? En fait, aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de personnes qui télétravaillent, mais on ne les qualifie pas comme télétravailleurs, en fait. Ces 10 millions de personnes dont je vous parle, ce sont des gens qui ne travaillent pas dans leur lieu de travail, en fait. Ce sont des gens qui vont faire, genre, le réparateur de Darty. Le réparateur de Darty, il n'est jamais à Darty. Il est tout le temps en visite, à gauche, à droite, etc. En fait, il y a plein de professions qui télétravaillent, mais on ne les considère pas comme télétravailleurs, parce qu'ils ne sont pas, en fait, posés devant un écran depuis chez eux toute la journée. Donc, c'est une autre couche de la société, en fait, qui fait ça. Et effectivement, là où tu as raison, c'est que ça ne concerne majoritairement des cadres, pas totalement. Il y a aussi des gens qui vont télétravailler pour d'autres types de tâches, etc. Mais malgré tout, quand tu regardes l'ensemble, ça reste assez faible encore pour l'instant par rapport au volume de cadres qui sont concernés. Et dans ces cadres, il y a bien évidemment les cadres installés qui vont pouvoir faire ça depuis et qui sont partis avec le confinement, qui sont partis en Bretagne, vivent dans leur maison secondaire et qui vont continuer à travailler à distance. Mais tu as aussi des profils plus jeunes, etc., qui ne sont pas encore cadres, mais qui devraient un jour le devenir, ou là aussi, qui ont la possibilité, en fait, à qui on offre des possibilités de travail à distance, plus ou moins aménagées.
Ce que j'entends dans la question que tu viens de poser, c'est que tu mentionnais certainement des gens qui travaillent depuis l'étranger.
Le télétravail, je l'associe aux les moyens de la boîte, mais pas les moyens de production à ta guise. C'est tes propres moyens que tu gères, et ta maison et ton local, et t'es chez toi. Et tu bosses, et t'es en relation à distance avec des gens pour travailler. Je le verrais comme ça.
Non, mais...
Juste une petite incursion, mais quand tu parles en fait de tous ces gens qui font des tâches manuelles sur Internet, c'est bien antérieur en fait à la pandémie. C'est-à-dire que ce type de travail accompagne le développement des logiciels, des algorithmes et des intelligences artificielles. La plateforme de Mechanical Turk, elle est bien antérieure, c'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. Donc déjà, ça, c'est une classe de travail qui est... on va dire bien antérieur à l'événement de Covid en soi, qui a énormément évolué dans les années, on va dire, de 2000 à 2020, il y a eu une progression quasiment constante, puis à un moment ça se stabilise. Par contre, elle est particulièrement dirigée déjà vers l'extérieur, c'est-à-dire que du point de vue des États-Unis et du point de vue en fait des pays européens, c'est comme une activité qui est délocalisée au Bangladesh, etc. Il y a cette idée. Et la deuxième chose, c'est que Amazon, par exemple, sur Mechanical Turk, ne le considère pas comme un travail. Ils ont tout un vocabulaire, toute une sémantique, en fait, où derrière, il y a une négation même de l'idée de travail. C'est-à-dire que pour eux, c'est une sorte de jeu vidéo. Les gens, d'ailleurs, sont payés non pas en dollars. C'est très rare, en fait, les pays où les gens sont payés. Donc, par exemple, tu es payé en bons d'achat Amazon, qui sont très difficilement convertibles en argent. Et c'est toute une manière pour échapper aux règles fiscales sur le travail. Donc il y a tout un jeu comme ça. Donc là, je parle de l'exemple d'Amazon, mais on pourrait quasiment transvaser sur les autres plateformes. La deuxième chose, c'est des interfaces spécifiques qui ne nécessitent pas forcément de la visioconférence comme Zoom, etc. Donc on est vraiment dans des infrastructures qui sont
Enfin, je pense que Mechanical Turk, c'est vraiment, c'est scripté, il y a des API pour les employeurs, mais pas pour les employés, etc. etc. C'est ultra surveillé justement pour pas qu'il y ait d'automatisation de la part des... Il y a énormément d'ailleurs de techniques hein, pour s'échanger des informations, il y a des forums, des plugins, des, etc. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut peut-être le classer un petit peu à part. Parce que c'est, voilà,
et souvent, ils ne sont pas salariés aussi.
Oui, ouais, bah non, c'est...
C'est une grande différence par rapport au monde dont on mesure le télétravail. Voilà.
Du coup, ça rejoint la mise en concurrence au niveau mondial. Ces outils, le marché du travail devient mondial. Et donc, c'est peu probable que ce soit en France qu'on fasse ce genre de boulot de travailleurs du clic. Il ne va pas y avoir beaucoup de... Enfin, je sais pas.
Si, il y en a en France aussi.
Ouais,
il y en a.
Ouais, en disant, moi, je m'étais dit, des fois, j'y réfléchis à faire ça en disant, il faut gagner des sous, je préfère. Tu sais, la secrétaire médicale qui avant était une dame, ou un monsieur, mais plus rarement, et qui était à son bureau dans le cabinet du docteur, et ben maintenant, en fait, c'est quelqu'un qui est en slibard dans son salon et qui reçoit des appels et des machins via visioconf et compagnie pour prendre des rendez-vous et les gérer, en fait. Ça a complètement été délocalisé et c'est un truc qui doit pas mal se faire, je pense, en France.
Elle s'occupe de plein de docteurs, en fait. Elle est plus branchée sur Doctolib que sur un docteur particulier.
On t'a coupé avec...
Non, mais c'est fait pour. Donc, qu'est-ce que je vous expliquais? Oui, les différences sociales dans le rapport au télétravail, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté. Le télétravail reste une histoire de cadre et était une histoire de cadre. Elle est restée une histoire de cadre, en fait. Quand on le regarde un petit peu globalement, et elle risque de le continuer à le rester. Alors le vrai problème, c'est que le travail de ces cadres a quand même un peu évolué. Avant 2019, le cadre en télétravail, la plupart du temps, c'était quelqu'un qui ponctuellement prenait un week-end prolongé. Avec, depuis le Covid, il y a un grand nombre de cadres les entreprises ont largué les amarres sur quelque chose sur lequel elles ne voulaient absolument pas bouger. C'était la question du présentéisme, c'est-à-dire le fait d'être présent sur le lieu de travail. Et là, elles ont largué les amarres. Et en fait, ça s'est transformé. Donc, d'abord, il y a eu plus de cadres qui se sont retrouvés au télétravail. Et surtout, pour eux, ça s'est souvent intensifié. Alors qu'ils étaient le télétravail était souvent occasionnel, pour beaucoup de télétravailleurs, il est devenu très intensif, voire exclusif. C'est-à-dire que ce qu'on avait avant, c'était plutôt un cadre qui prenait de temps en temps au bureau, qui était au télétravail très rarement. Depuis la crise Covid, on a plutôt le profil typique, c'est plutôt le cadre qui est chez lui. Toute la semaine. Et là, il y a un vrai changement pour certains de ces cadres qui se retrouvent d'un coup éloignés de leur lieu de travail, mis à distance, comme un peu externalisés, comme on l'a à travers le monde aujourd'hui, où on fait travailler des ingénieurs à l'autre bout de la planète. D'un coup, pour plein de cadres, ils se retrouvent à être mis très, très à distance des entreprises auxquelles ils sont rattachés. Et avec des difficultés pour beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux demandent en fait à pouvoir revenir dans l'entreprise, ce qui n'est pas si évident ou possible pour eux.
Mais ça s'est fait quand le truc est venu des boîtes ou est venu des gens. Enfin, c'est les salariés qui ont demandé à. Parce que moi, dans mon ancien boulot, j'ai un exemple complètement surréaliste et du coup, j'adore le sortir. On était donc dans la plus grande association, soi-disant, du handicap de France. On avait de handicap, on a eu le droit au télétravail, avec le Covid, et puis après elle a dit, moi mon handicap il m'embête un peu, j'ai deux enfants, tout ça, si je peux continuer, j'ai trop su gérer l'accueil justement, le téléphone, tout un tas de trucs de chez moi, je peux le gérer un jour en télétravail parce que j'ai mal et que c'est chiant de venir bosser, et la direction lui a mis un gros doigt et il a fallu que ce soit l'inspecteur du travail qui vienne et qui dit, ah si, vous allez lui accorder. Donc c'est des fois il y a des points de blocage. Enfin là quand tu vois le truc surréaliste, c'est une asso du handicap. Je remets ça dans le contexte pour vous donner un peu l'image de la situation extraordinaire. Voilà. Et je pense qu'il y a dû y avoir des blocages au départ de la part des boîtes. Puis qu'il y a peut-être des boîtes qui ont dû sentir le truc de ah, vas-y, pars.
Ça, c'est plus difficile à évaluer, mais il y a effectivement un peu des deux, en fait. Ça dépend. Le télétravail a révélé les cultures d'entreprise des entreprises. Pour celles qui étaient très dans le contrôle, elles sont restées très dans le contrôle et dans les directives. Pour celles qui étaient plus proches ou plus libres d'une certaine manière, le télétravail a poussé en fait ces formes d'autonomie et de liberté.
Parce qu'à contrario, moi je connais un exemple totalement de quelqu'un en situation de handicap pour qui le fait de rester à la maison était douloureux parce qu'il n'avait pas de poste adapté et que l'entreprise lui refusait d'être sur son poste dans l'entreprise parce qu'il y avait tant de jours de télétravail et tant de jours de présentiel. Alors qu'elle, ça la faisait souffrir de rester chez elle. Mmh. Parce qu'elle n'avait pas les moyens d'adapter son poste.
Ouais. Ce qu'il y a
derrière. C'est la boîte de lui fournir, hein, légalement.
Alors, ça, c'est l'autre difficulté qu'il y a.
Non, mais la notion de si elle a une RQDH et machin et tout, la boîte, elle est en dehors.
Oui, sauf qu'après, les gens qui sont dans des conditions, ils ne peuvent pas aménager leur appartement avec un poste.
Oui, oui, c'est vrai. Ça
suppose de ne pas vivre dans un même carré.
Et c'est une question que je me pose un peu parce qu'il y avait aussi juste avant ce moment de confinement, je me rappelle, toute une évolution de l'immobilier d'entreprise et même l'open space qui est un phénomène antérieur, mais qui était déjà et après on s'est mis à des formes où on était que temporairement dans des espaces.
Enfin, il y avait toute
cette recherche là qui était en cours, donc ça me donne l'impression que ça c'est l'ultime, enfin le dernier. Enfin, ça s'inscrit en tout cas dans cette
situation. Oui, ça s'inscrit dans cette continuité en fait, de réflexion sur c'est quoi le travail et comment le faire. L'un des éléments en fait, un peu important pour moi là-dedans, c'est en fait le télétravail, c'est venu sans droits sociaux, vraiment. Sans droits. Grosso modo, c'est des accords entre entreprises, salariés, qui sont d'ailleurs plus que des accords cadres, etc. Souvent, ce sont des accords individuels qui reprennent les accords individuels qu'il pouvait y avoir entre un cadre qui avait le droit de télétravailler et un autre avec auquel on le refusait. Et donc, souvent, ce sont des arrangements qui restent encore très, très individuels. Dans une même entreprise, vous pouvez avoir des gens à qui on va offrir le poste de travail et les bonnes conditions, etc., et d'autres à qui on va le refuser. Il y a certains à qui on va fournir le matériel et d'autres à qui on l'a refusé. Enfin, on a vraiment l'impression qu'avec le télétravail, il est venu sans droit, en fait. Et le fait qu'il soit devenu sans droit donne des situations différentes, aberrantes, etc. Alors, il y a bien un petit cadre légal qui a été voté, mais il dépend, en fait, des accords de chaque entreprise et des modalités qui sont décidées.
Mais par exemple, participer au loyer, ça peut arriver ?
Comment ?
Que des entreprises payent une part du loyer des gens.
Il y en a qui payent, il y en a d'autres qui ne payent pas. Dans l'administration, c'est 2,50 € par jour de télétravail. C'est ça l'indemnité et c'est plafonné à 200 € par mois. Donc ça, c'est dans l'administration. Si vous êtes fonctionnaire, c'est ça votre indemnité télétravail. Et ça n'implique pas nécessairement un ordinateur. Attention. Donc voilà, les règles sont... elles sont à la tête du client. Mais ça rejoint un autre phénomène qu'on a dans le travail, c'est celui de l'individualisation du travail, qui est un phénomène massif qui a lieu depuis en fait des années, où le travail se ressent comme une chose de plus en plus individuelle. Les primes, les congés, il y a plein de choses qui sont négociées de plus en plus individuellement. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Enfin, moi, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est vraiment d'essayer de relier ce qui se passait à des phénomènes plus anciens et de les regarder aussi dans leur évolution, quoi. Et ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vraiment ce côté, en fait, très stratifié du télétravail. Ce qu'on appelle télétravail, ce qu'on n'appelle pas télétravail, qui on désigne derrière ça. On a l'impression aujourd'hui que finalement tout le monde peut se mettre en télétravail, alors que ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Grosso modo, mais vraiment grosso modo, mais ça marche assez bien. Pouvez-vous dire que les cadres ont été en télétravail durant le confinement. Les professions intermédiaires ont plutôt été celles à qui elles se sont retrouvées au chômage partiel. Et puis les professions les plus basses, elles ont continué à travailler. Elles sont allées sur suite. C'était les premiers de cordée. Ils ont continué à travailler. Et pour eux, ça n'a pas changé grand-chose.
Moi, j'ai des étudiants ingénieurs en alternance qui travaillent pour des très grandes entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'utiliser Zoom parce que ce n'est pas sécurisé et qui ont quand même assez rapidement installé des logiciels très intrusifs, enfin, comment dire, très stricts en fait. Et en particulier, ils respectaient, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ils respectaient en télétravail les horaires de...
Du bureau.
Les horaires de bureau à 17h45, impossible de faire quoi que ce soit sur l'interface Peugeot, par exemple.
Alors, ça, c'est les entreprises se sont mises, elles ont, contraintes et forcées, se sont mises au télétravail. Donc, elles ont essayé de mettre en place des règles. Le problème, c'est que ces règles ont changé tout le temps avec les confinements, les mesures sanitaires. Un coup, c'était un jour par semaine, on est passé à deux, on est monté à trois, après, vous faites comme vous voulez. Puis, il y a eu un autre confinement, il faut revenir à deux jours par semaine, etc. Elles ont développé le concept du travail hybride, l'hybridation du travail. Donc le concept, c'est de dire que vous êtes télétravailleur, mais vous devez être aussi un peu sur place. Et puis aussi, ce qui est venu avec beaucoup de ces outils, c'est un contrôle, en fait. Les entreprises, elles ont eu peur de l'autonomie, de la disparition de leurs salariés. D'un coup, c'était un petit peu n'importe où, on ne savait plus où les trouver, et il fallait arriver à les surveiller. D'où le Zoom, en fait, souvent avec des réunions un petit peu imposées, et d'où, en fait, le contrôle qui est allé un petit peu dans tous les outils de télétravail et qui sont aujourd'hui monnaie courante, en fait. Il y a un contrôle plus ou moins ouvert ou plus ou moins efficace depuis ces outils. Le premier, c'est celui de savoir si vous êtes connecté, pas connecté, sur la plateforme de l'entreprise, jusqu'à des formes de plus ou moins intrusives. Mais pour revenir à la remarque, effectivement, il y en a qui ont, encore une fois, ça dépend des cultures d'entreprise, il y en a qui ont mis des règles très très strictes et très bordées, en fait, le télétravail, avec des tas de contraintes, et d'autres qui ont compris que l'avantage, c'était au contraire de favoriser l'autonomie, bon, de leur cadre, ça ne leur posait pas de problème. Et le problème, en fait, c'est tous ceux qui sont venus... hors cadre, en fait, qui ont été intégrés pendant au moins les premiers mois ou les pires moments du confinement. Et là, il y a eu un gros, gros mouvement de surveillance, de contrôle, de règles établies, etc. Et dans cette hybridation, justement, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, il y a des règles strictes qui sont des fois complètement aberrantes. Grosso modo, c'est les deux jours de travail sur place physiquement où tout le monde doit venir, alors que... La pandémie était encore là, et non, on demandait à tout le monde d'être là. Vous êtes tous là le mercredi. Oh, OK, mais on peut pas venir plutôt quelques-uns le mardi, d'autres... Cette complexité-là. Donc les entreprises ont essayé, selon leurs modalités différentes, d'essayer de gérer à leur manière, en fait.
Moi, dans le contexte universitaire, quand on a mis en place... les gens commencent à essayer de faire la promotion des logiciels libres, qui fonctionne, comme tu l'as dit, la plateforme de base, il n'y a pas de technologie très spécifique. C'est une question plutôt de moyens informatiques qui sont mis. Ça aurait très bien pu fonctionner en libre aussi si on avait mis les moyens. Le fait est que ces moyens n'ont pas été mis. Et puis, des licences Zoom ont été achetées massivement.
Des licences Microsoft, encore plus massivement.
Aussi. Mais ce qui s'est auto-organisé dans beaucoup de cours, parce que c'est quand même relativement lourd ces trucs, ces licences, ces machins, c'est Discord. Est-ce que le phénomène Discord est limité aux universités? Est-ce que c'était donc une plateforme qui était je pense, le contrôle des spécialistes?
Alors, en fait, nous, on est partis sur Discord. Enfin, on bossait tous les deux dans la même boîte, on est content d'avoir quitté. et on est passé sur Discord parce que c'était libre et que certains connaissaient d'ailleurs des adhérents et tout ça. Et c'est au moment du confinement que la boîte nous a rappelé qu'ils avaient une licence Teams. Et donc, moi, je me souviens d'un grand moment d'avoir passé une semaine à expliquer à mes collègues, non, je suis pas calme non plus, hein, mais bon, plus âgé que moi et plus loin d'ordinateur, comment ça marche Discord, pour une semaine après être obligé de leur dire, alors maintenant c'est sur Teams. Et là, je me suis dit, mais les pauvres, ils vont péter un câble, ils vont rien comprendre. Et ouais, ils nous ont imposé Teams. Ouais.
Dans le contexte universitaire, il y a effectivement un truc imposé. Avec aussi, il y avait des sociétés qui ont fait leur beurre en vendant des systèmes de caméras automatiques qui vont filmer des cours en amphi, etc. Mais ce que j'ai observé sur le terrain, c'est plutôt qu'il n'y a pas d'obligation, on n'est pas surveillé dans l'obligation d'utiliser ces logiciels. Et ce qui s'est imposé dans beaucoup de cours, c'est en parallèle, disons, en tout cas très souvent en parallèle, Discord. Et maintenant, ça continue aussi hein, dans certains cours, en particulier dans certains de mes cours. C'est que les étudiants, finalement, en temps réel, ont un réseau entre eux. Alors, pour le coup, là, c'est WhatsApp. Mm-hmm. Ils font leurs commentaires, ils s'échangent des trucs, etc. Donc, ils sont...
Alors, les réseaux de groupes un petit peu de ce type, ça existait en fait avant le confinement. Il y avait les groupes sur Facebook pour les lycéens ou les choses comme ça. Dans l'entreprise, c'est beaucoup Slack en fait, plus que Discord assez souvent, parce que c'est une licence, c'est sécurisé, etc. Donc, les solutions dépendent beaucoup des endroits et des modalités qui sont disponibles. Et donc, il y a toujours tout cet éventail, en fait, c'est déployé et déplié. Mais effectivement, il y a eu un boom de ces entre la messagerie et l'outil de coordination, collaboration. Elles ont plutôt bien fonctionné. Elles fonctionnaient avant, contrairement à la visioconférence qui, franchement, pédalait avant en fait. Il y a un boom qui est différent.
Il y a une fonctionnalité de Discord que les autres trucs n'ont pas, c'est que Discord te montre quel jeu vidéo sont en train de sortir. Oui, donc du coup, ça permet de savoir. Ça permet de savoir à quoi jouent tes étudiants pendant qu'ils écoutent ton cours.
Discord, ça accueille un nombre a priori illimité de personnes. Alors qu'il y a pas besoin de payer comme Zoom, où il faut un
tu
temps.
Tu payes différemment.
Oui, tu payes différemment, mais tu n'es pas appliqué de la même façon.
Oui, et puis je pense que c'est quelque chose qui est comme très. Je pense que tu as raison, hein, mais ça vient peut-être avec la question que j'ai envie de poser, quoi. C'est-à-dire que c'est très localisé, c'est-à-dire chaque segment, chaque endroit va avoir sa propre pratique. Et moi, justement, la question, c'est, voyant effectivement Zoom, je le circonscris effectivement, par exemple, les séminaires universitaires sont massivement dessus. Principalement, mais c'est vrai que par exemple dans le travail, j'ai l'impression que Teams c'est comme plus.
Oui, bien sûr. Répondu, oui, ouais. Teams a vite pris le devant. D'abord parce que les entreprises avaient l'habitude de Microsoft, elles avaient souvent les licences Microsoft, donc il suffisait de rallonger un petit peu pour avoir la licence Teams, et tout s'interfaçait avec le reste des outils dont ils disposaient en fait.
Mais voilà ma question, donc pourquoi l'appeler coincé dans Zoom et pas coincé dans Teams? Est-ce que c'est parce que justement Zoom a une extension dans le domaine quasiment de l'ordre de l'intime, c'est-à-dire qu'on va faire ces apéros Zoom avec les copains.
Pour moi, c'était parce qu'on a plus parlé de Zoom, en fait, la Zoom fatigue. Excusez-moi. La Zoom fatigue, c'est l'un des. Enfin, Zoom, pour moi, c'est vraiment l'un des mots du confinement, en fait. Si on s'en souvient, les apéros Zoom. Les apéros, c'est pas beau. Les apéros Zoom. Et le logiciel lui-même, alors effectivement aujourd'hui il y a plus Teams dans plein d'entreprises, mais il y a encore beaucoup Zoom, notamment quand on parle de discussions entre structures différentes.
Donc c'est un objet culturel plus transversal, quoi.
Oui, mais c'est vrai que Teams l'a dépassé largement en fait.
Le constat qu'on fait en France est international, chaque pays a son.
Je pense qu'il y a des différences entre les uns et les autres, mais grosso modo, enfin, le nombre d'utilisateurs de ces systèmes a explosé. Alors, il y a des différences selon la richesse des pays, bien évidemment. Enfin, encore une fois, ce sont des métiers plus vous utilisez ces outils, plus vous êtes en lien avec le numérique, en fait. C'est McKinsey qui avait sorti une étude là-dessus en montrant la possibilité de télétravailler. En fait, elle dépend du type de métier que vous faites, en fait. Donc, plus vous êtes informatisé, plus vous avez à avoir tendance à pouvoir utiliser ces outils, etc. Donc, ce qui fait des différences entre les pays riches et les pays pauvres, assez simplement, mais ce qui fait aussi des différences entre les professions. Il y a un truc où, grosso modo, les professions qui ont plus de capacité à pouvoir travailler, à pouvoir télétravailler, c'était la banque, les assurances, les métiers de la communication, ces choses-là. Celles qui ont le moins de possibilités de télétravailler, c'est logistique, agriculture, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas informatisés, d'ailleurs, mais pour eux, l'informatique est plus un outil qui contrôle ce qu'ils font qu'un outil d'autonomie, comme malgré tout le sont un petit peu restés ces outils-là, parce que justement, ils permettent de pouvoir sélectionner ses horaires, ses déplacements et des choses comme ça.
Et les professions qui se sont liées à qui font pas d'informatique, hein, les psys, c'était la révolution.
Oui, mais ça a été une libération dans certains domaines. Les psys, c'en est un, il n'y a pas de que ça. Enfin, la formation, aujourd'hui, essayer de trouver des formations en présentiel, enfin, pas les formations continues, hein, enfin, genre les formations que propose Pôle emploi aujourd'hui, grosso modo, ce ne sont que des formations à distance.
Donc je crois que tu es psy. C'est pas, j'ai le droit de révéler ce truc. Donc du coup, quelle est ton opinion? Est-ce que vraiment on peut faire de consultation à distance? Ça me surprend beaucoup, à vrai dire. C'est...
Là, on
perd énormément de choses dans la communication.
Ben oui, en fait, il y a plein de choses qui sont en train de sortir sur l'utilisation de Zoom et des psys. C'est comme les psys aiment bien raconter des trucs, ben là, ils sont contents de raconter plein de choses. C'est toujours pareil. Moi, je pense que l'être humain, il est adaptable. Donc, on ne pourrait pas s'adapter à un rapport avec un écran qui est une interface. Il y a à peine c'est sorti, il y a des logiciels qui sont sortis derrière pour créer ton cabinet de psy derrière toi, pour que les gens ne rentrent pas dans ta maison. Non, mais justement pour le principe de l'intime, le fait d'avoir son psy en interface, ça a fait rentrer le champ de l'intime là où il ne rentrait pas. Ben, ça fait des processus intéressants. Après, ce que tu disais sur le regard, tu n'as jamais vu ton psy d'aussi près, hein, que ben, quand tu l'as collé à ton écran. Finalement, tu dis, ah putain, il a des boutons sur la gueule, un truc que tu n'avais pas imaginé. Et après, tu n'as pas le regard. Le regard, quand tu regardes ton écran, c'est parce que la personne voit. Donc ça, ça change. Et d'un autre côté, les gens ne regardent pas tellement leur psy, on voit dans les yeux. Hein. Donc ça change plein de rapports, ça a créé d'autres émergences.
Mais toi, moi qui m'intéresse au traitement du signal et qui est aussi m'enseigne, et qui aussi étudie avec Rinus qui vient la semaine prochaine justement comment Discord a des algorithmes extrêmement bizarres, enfin de nivellement des niveaux sonores pour que les gens puissent. Enfin, quand tu as 50 personnes qui parlent ensemble, il faut absolument privilégier certains. Donc on est c'est pas seulement des micros qui sont mixés, il y a vraiment des choix qui sont faits, il y a des dynamiques de paroles et de sons qui sont compressées très fortement. Et du coup, donc autant l'échange visuel, le fait que quand la vidéo est pourrie, en général, les gens, ça ne les dérange pas trop. Mais par contre, quand le son est peu intelligible, là, ça rend, je pense, la communication vraiment difficile.
Sauf que la question que tu posais, c'est sur du face-à-face, c'est deux personnes,
mm-hmm.
mais pas sur un coup.
Ouais. Mais il y a quand même ces phénomènes de compression du son. Enfin, toi, c'est extrêmement appauvri, la manière dont tout est diminué pour gagner de la bande passante. C'est vraiment optimisé. C'est peut-être ça qui distingue certains logiciels entre eux, leur capacité à multiplexer comme ça des flux. Mais ça se fait au prix d'une très grande pauvreté et d'un.
La fatigue.
Zoom,
en fait, tu pètes un câble après 8 heures de Zoom parce que tu n'entends rien, parce que tu as les bruits de bébé, de la copine du gars avec qui tu bosses qui fait du bruit, il y a tout un tas de merdier. Enfin, moi, je crois que le plus hardcore qu'on avait, c'est parce qu'il vient juste d'en sortir, alors j'aime bien parler de son ancien travail. Donc, on avait un adorant qui avait des gros soucis d'élocution, donc déjà, c'était pas pratique quand tu as des soucis d'élocution et puis taper sur le clavier c'est très lent, donc au bout d'un moment tu dis non, parler ça sert plus à rien, tape, mais du coup attends, machin va parler, et en fait machin va parler, on est déjà passé à 4 questions le temps qu'il ait pu essayer de communiquer avec nous, mais le plus terrible c'était parce que c'est pareil, c'est complexe quand t'es en situation de handicap de gérer la technique, des fois il se tapait ses repas en pleine réu, mais il coupait pas son micro. Et en fait, comme tu dis, l'algo, il mettait en avant juste les. Donc t'as quelqu'un qui te parle, ton boss qui te dit un truc machin, t'as le scroll, tu parles dessus. Et toi, tu te dis, putain, elle va durer 2 heures. Et effectivement, tu sors, t'es guidé parce que, je sais pas, ton oreille, ça lui montre trop de trucs compliqués à jouer.
Ça valorise certaines basses sur les aigus, notamment, et effectivement, c'est un peu problématique. Ouais.
En fait, il y a quelque chose que moi je trouve qui est intéressant parce que là, c'est vrai qu'on partage beaucoup d'expériences vécues, c'est-à-dire Et il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que malgré tout, pour moi, c'est des logiciels qui sont très asymétriques. C'est-à-dire que, par exemple, et ça c'est quelque chose que peut-être certains professeurs d'université connaissent, il y a des détecteurs d'attention sur certains élèves dans Zoom que les élèves ne voient pas forcément.
Alors, voilà. Il y a eu des choses, ils les ont enlevées, ils y travaillent toujours, enfin, c'est un petit peu compliqué, mais effectivement, il y a des modules pour détecter les questions attentionnelles, savoir si quelqu'un fait quelque chose. Et surtout, l'organisateur de la réunion a des super pouvoirs par rapport aux autres. Il peut exclure, couper la chic, couper le micro, très très facilement.
Oui, juste les éléments de contexte et de précision. Donc nous, à l'université, avant le confinement, on avait déjà des outils de surveillance d'examen à distance. Donc pour les gens qui passent leurs examens chez eux, donc hyper intrusifs, c'est une boîte privée qui facture ça et c'est assez cher. Mmh. Et puis il y a aussi carrément de surveillance d'amphi à distance. On avait déjà des contrats avec une boîte dont le nom m'échappe. Et selon ce que tu payes, c'est plus ou moins intrusif, on surveille plus ou moins les étudiants. Et par ailleurs, effectivement, ce qui est rigolo avec Zoom, c'est qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui s'amusent à hacker les cours. Et enfin, c'est très difficile de garder le contrôle jusqu'au bout. Et on a tous des expériences assez rigolotes de cours qui passent en mode complètement. Avec des gens qui ont compris les faiblesses de leurs professeurs qui ne savent pas prendre des précautions.
Mais avant même qu'il y ait le confinement, si tu es dans un amphi du côté étudiant, ils ont au moins 3-4 fenêtres ouvertes en même temps. Ça ne les empêche pas de suivre des cours, de prendre des notes, de faire leurs courses, de suivre un film et de discuter avec leurs potes.
Alors, en fait, oui et non, dans le sens que ça, c'est l'habitude à partir du moment où tu es dans un mode relax. Mais par exemple, si tu passes sur un examen dans une grande école ou dans une grande université, là, tu ne seras pas du tout sur la même chose. C'est-à-dire que les machines vont être contrôlées pour savoir quels sont les types d'activités qui sont en cours. Certaines vont t'autoriser, certaines non. Tu vas être obligé, par exemple, et c'est là où justement il y a des endroits qui sont intéressants parce que justement l'autorité en fait, du design du logiciel ressort. On va par exemple te demander de constamment regarder la caméra dans les yeux. Ou de, tu vois, que ta tête soit parfaitement calée, exactement comme les photos d'identité. Donc en fait, tu vas avoir une position, il y a un contrôle du corps, où donc on contrôle les applications que tu as pour pas que tu ailles sur Internet, choper les réponses, machin, etc. Mmh. Et on va commencer. Et il y a toute une. En fait, là, c'est on est dans Foucault, hein, c'est vraiment le. Je sais plus, dans surveiller et punir, là, il raconte la position du militaire, le découpage des gestes, c'est exactement la même chose. Tout est une fiche d'instruction, tu dois passer ton examen, tu as un temps qui est donné, tu as une position qui est donnée, tu as un type d'application qui est donné, et tu ne peux pas en sortir. Et c'est à tel point que, bon, il y a eu beaucoup on en parlait tout à l'heure, il y a une littérature très abondante en fait sur le sujet. C'est des expériences qui sont ultra traumatiques pour les étudiants. Et c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, l'idée de raconter un petit peu ça, c'est de dire, en fait, oui, dans les cours, les étudiants, il y a une certaine permissivité parce que. Les profs ne savent pas faire, ils s'en foutent un petit peu, d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est bien que les étudiants vivent un peu leur vie à côté, enfin, il ne faut pas non plus constamment les fliquer, mais c'est-à-dire qu'il y a une gradation du contrôle jusqu'au moment où, en fait, tu arrives dans une situation complètement beaucoup plus binarisée, beaucoup plus radicalisée. Hein, et la question, c'est que le logiciel, il, dans son design, il incorpore cette latence aussi dans son usage, mais l'usage est toujours généré par le design. Hein. Voilà, donc c'est juste une petite précision là, pour le truc. Mais voilà, c'est oui, dans certains cours on s'amuse, mais pas tout le temps. Quoi.
Est-ce que c'est l'heure où on sort la soupe ou pas? C'est un peu chaud.
Moi j'ai le bras, c'est tout. on peut continuer de manière un peu informelle ou sortir la soupe et puis continuer.
Est-ce que tu voulais rajouter tout avant que je passe en ce mode si on sent.
Ouais, j'avais une question parce que je ne sais pas. Je veux toujours arrêter sur le télétravail. Je pense que en fait, ça peut favoriser et casser quelques injustices ou en recréant d'autres, notamment ce que tu vas avoir de bonne blanche. Je pense que c'est super intéressant quand vous parlez de pouvoir avoir des rendez-vous médicaux dans les zones où il y a peu de médecins. Je sais que ça dépanne pas mal. On parlait d'autres collègues qui avaient aussi pour qui ça a arrangé par rapport à sa condition. Physique, mais aussi plein de gens que ça peut arranger d'avoir un peu de télétravail parce que fatigue, parce qu'on peut faire autre chose à côté. Je pense qu'il y a une bonne base quand même malgré tout, parce que je pense qu'on l'utilise trop, pas de la bonne manière. On les enchaîne aussi les réunions, ce qui fait que tu casses aussi les temps informels que tu as au travail, qui permet aussi de créer un groupe. télétravail, c'est un gros point. C'est injuste parce qu'il y a des personnes qui ont un emploi qui, par essence, font qu'ils peuvent un peu télétravailler. Il y a des cadres et d'autres non. Et en fait, ma question, c'est savoir si vous avez pu éclairer les. Est-ce que ça casse les rapports de force? Je m'explique parce que, par exemple, nous, à l'APF, on travaillait, du coup, on avait des afflux de bénévoles. Sur moi, ma partie qui était trouver des bénévoles juristes parce qu'ils travaillaient dans des grosses boîtes ont décidé de louer des locaux plus petits parce qu'en compte ça fait des économies, donc ces gens sont en télétravail, donc plus de temps parce qu'ils finissent plus tôt, du coup ils venaient faire du bénévolat, et moi je me demandais si, enfin ma question clairement c'est est-ce que ça casse pas aussi la force collective des travailleurs, c'est-à-dire que si tu as plus de télétravail, donc tu vas avoir moins de capacité à te rassembler, à te mettre d'accord sur ce sur quoi tu n'es pas d'accord. Mais alors, on l'avait vu, parce qu'on a monté une grève express où on s'est envoyé un message sur nos différents Discord, qu'on se fasse une visio après le travail, il faut qu'on discute. Et on a essayé, avec plus ou moins de réussite, quand on a eu du monde, se mettre d'accord pour faire mon revendication et faire grève. Donc, est-ce que c'est à la fois pas un frein, mais aussi un accélérateur pour
Cette
utilisation et les niveaux?
Oui, mais les deux, mon capitaine. D'un côté, malgré tout, globalement, ce qui est ressorti, notamment des préoccupations syndicales ou ce qui a pu en remonter, c'est que ça a plutôt contribué à casser les collectifs, en fait, hein, vraiment à les désolidariser. Il y a toutes des tas de questions qui sont, par exemple, on s'engueule très rarement dans Zoom. C'est très difficile de s'engueuler dans Zoom. Vous êtes enregistré ou vous ne le savez pas, ou c'est possible. C'est pas l'endroit pour, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même des pressions qui s'exercent de par le dispositif qui est mis en place lui-même, en fait. Et effectivement, il y a eu... ça a plutôt été très difficile pour certains collectifs de d'utiliser l'outil. Après, il y a aussi ce que vous racontiez, enfin voilà, on a aussi pu l'utiliser pour essayer de faire des choses. Mais le risque, c'est jusqu'où va l'usage du dispositif. Et bien évidemment, derrière, la question, c'est ces usages qui sont politiques. Alors, on se souvient très bien que les manifestations, il y a eu, c'était à Jussieu, si je ne me trompe pas, mais pas seulement, c'était avant la présidentielle, où d'un coup, il y a eu une grève étudiante qui a été déclenchée et l'université a fermé, en fait, les locaux. Et en fait, ils ont empêché la grève en faisant basculer tous les étudiants en visio et en télétravail, en fait, quoi. Et on le voit. Il y a eu la crise épidémique, bien évidemment, qui a fait ces bascules. Là, aujourd'hui, on nous reparle exactement de la même chose. L'université de Strasbourg... Qui, à Noël, va fermer 15 jours de plus pour faire des économies d'énergie face aux crises climatiques ou aux crises, épidémiologiques, on va avoir tendance à politiser, en fait, les rapports qui peuvent se faire en présentiel ou en distanciel. Ça, c'est bien évidemment un biais qu'il va falloir regarder et surveiller, mais qui est plutôt inquiétant, en fait. C'est ce sur quoi je termine le livre, en fait. Justement sur le rapport politique, en fait, qui peut se tisser dans ces outils, mais qui n'est pas nécessairement à l'avantage des salariés. Par exemple, très simple, il y a eu des tas d'endroits où les syndicats ont demandé à pouvoir faire des réunions Zoom, mais ils n'ont pas eu cette possibilité-là, parce que notamment, ils n'ont pas les adresses mail des salariés la plupart du temps. Voilà, et c'est une vraie difficulté. Or, aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est l'entreprise qui gère les adresses mail des salariés ?
Non, mais je crois que ça, en plus, ça allait plus loin. Après, ça, c'est le droit social de machin. Mais je me souviens que, si oui, on n'a pas le droit d'utiliser l'adresse pro, nous, en tant que CSE, on ne pouvait pas utiliser les adresses pro. Et si on envoyait un truc, genre un bête tract d'info de Gay Manif ce jour-là, on se faisait légalement défoncer, quoi.
Alors, si je ne me trompe pas, vous avez le droit d'utiliser les adresses professionnelles qu'on vous a remises. C'est encore le RGPD qui s'applique. Mais en fait, vous n'avez pas le droit d'utiliser les adresses mail que vous ne détenez pas, en fait, ou que les salariés ne vous ont pas communiquées. Si je ne me trompe pas, la distinction, elle est plutôt donc, là-dessus, normalement.
Ils auraient pu nous filer leur mail pro.
Normalement, ils ont le droit de... Oui, oui, vous êtes...
Parce que nous, on avait vraiment un texte de loi.
Je vais repasser de l'info...
Oui, mais on n'avait pas le droit.
CSE, mais pas la propagande syndicale.
Je rebondis aussi juste pour dire que dans deux semaines, on aura une intervention du syndicat des travailleurs artistes-auteurs qui viendront justement discuter un petit peu automatisation. Voilà, il y a des dangers d'automatisation par rapport
à... les traducteurs qui sont face à des machines...
Ils sont mal. Hein.
Voilà, donc, mais ça rebondit un peu aussi sur ces stratégies de collectivisation, de syndicalisation par rapport à la technique.
Parce que nous, au syndicat, on n'a pas jamais eu autant de visio, des coups de formation depuis qu'il y a le télétravail. Et c'est vrai que ça permet ça aussi malgré tout. Il y a quand même de plus en plus d'outils, donc c'est beaucoup de klaxon où on rendait les réunions très participatives et moins passives. C'est vrai que ça permet ça aussi.
Oui, mais il y a un côté libératoire. Hein. C'est l'autonomie des cadres qui, d'un coup, peuvent maîtriser quelque chose.
C'est injuste, j'en reviens, parce qu'il y a des personnes pour qui utiliser l'ordinateur, c'est facile, mm-hmm. pour réussir à se développer
tout à fait.
Grâce à ça et pas d'autres. Mais je trouve intéressant, c'est que ça rebat les cartes aussi des rapports d'oppression dans une hiérarchie classique, où, pour reprendre un peu Crozier, c'est-à-dire que finalement, les zones floues et d'ombre, c'est là où il faut se battre, et que des fois, des personnes qui sont dans la hiérarchie formelle en bas de l'échelle, mais qui ont des informations, finalement... mais ça les met sur une hiérarchie plus forte, et de voir que des cadres qui ont tout pouvoir dans des boîtes où nous, et en fait, ils galèrent avec l'informatique, eux, d'un coup, se retrouvent à la remorque et sur des positions un peu plus délicates.
Et, c'est vrai qu'il y a une prise de pouvoir assez con aussi à dire, mais effectivement, mais ça, c'est juste lié à la technique, mais quand t'es en bas de la hiérarchie, mais que t'es plus belle, comme tu disais, tes étudiants qui t'ont pris la main sur ton cours, quand t'es plus balèze que la hiérarchie, ça te donne la possibilité d'un peu genre mousser, aller plus loin, ou non, il verra pas, t'inquiète, il s'en fout, on s'en fout, on fait notre truc. C'est vrai que c'est pas mal ce truc.
Ouais, je suis convaincu que si tu coupes à Discord et à toute la logique communautaire, finalement, enfin moi je lui ai dev et moi je suis en train de faire une conversion de développeur, je suis sur beaucoup de Discord de développeurs où il y a beaucoup d'entraide, finalement tu peux développer tes savoirs et tes compétences vraiment différentes grâce à la communauté et grâce au visio. Donc c'est, c'est aussi un peu l'entre-deux où ça favorise certains au détriment d'autres.
Il y a toute une tradition dans les usines en fait de ne pas faire remonter à la hiérarchie en fait les optimisations des machines ou une certaine connaissance en fait qui est acquise par la pratique des machines pour justement éviter de la suroptimisation, c'est-à-dire de rester sur des cadences qui sont tenables. Donc ça, c'est des choses qui se transmettent. Tu arrives dans une usine, on te dit bah non, surtout là. Ta bonne idée, tu le gardes pour toi, tu viens plutôt en parler avec nous, mais tu vas pas voir le manager, etc., parce que tu fous la merde dans les équipes. Mmh. Et c'est comme des pratiques qui sont assez immémoriales dans la relation inter-entreprise avec les machines. Quoi.
Tout à fait.
Bien, je crois que maintenant, c'est vraiment l'heure de la soupe.
Ouais, c'est l'heure de la soupe, ouais.
Merci beaucoup.
Merci.
On va continuer la discussion quand même. Hein. Et je crois qu'on va rester à l'intérieur parce qu'il s'est remis un peu voir pour le moment.